FM connectée à votre région.
Dans lequel elles pourraient être épanouies. Et puis après, effectivement, elles feront des concessions où bon leur semble. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est ressources et compétences hein, pour peut-être s'appuyer sur déjà ce qu'elles ont dans leurs mains, en fait, hein, leur savoir, leur savoir-être, mais aussi leur savoir-faire. Notamment, on parle aussi beaucoup des soft skills. Hein, donc les soft skills, ce sont les qualités professionnelles, celles qu'elles ont développées sur le chemin. Elles n'étaient pas livrées dans le berceau, celles-ci. Hein, donc c'est un attendu hein, beaucoup quand on regarde les attentes des employeurs hein, sur les soft skills, parce qu'effectivement, des soft skills, ça prend longtemps à se développer et ça s'acquiert pas facilement en fait. Hein, c'est vraiment un travail de fond, c'est vraiment du développement personnel. Donc une personne qui a déjà une bonne capacité d'adaptation comme soft skills ou une bonne communication, ben on sait que après s'il faut lui apprendre des compétences plus techniques ou du savoir, ça peut passer par la formation. Alors qu'effectivement, les soft skills, c'est
on les a ou on les a pas. Enfin, on les a développés ou on les a pas développés.
C'est ça.
C'est vrai que c'est de plus en plus courant dans les offres d'emploi ou dans les entretiens de recrutement d'ailleurs que les recruteurs s'attachent beaucoup à cela. Partant du principe qu'un recrutement réussi, on ne pourra pas apporter les soft skills dont l'entreprise a besoin. Mais par contre, la partie plus technique, les hard skills, on peut les acquérir pendant la formation. Donc, on a un peu changé la façon de voir et on n'est plus sur uniquement des compétences techniques. On s'est rendu compte quand même que c'était l'un n'allait pas sans l'autre et qu'en tout cas, c'est pour le développement de l'entreprise, c'était très important et aussi pour les personnes elles-mêmes.
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est bien
donc
résumé.
Ça, c'est le bilan de compétences.
Oui, alors pour finir, Sylvie, juste le bilan de compétences, une fois qu'on a fait tout ça, hein, qu'on a travaillé les aspirations, qu'on a fait l'inventaire des ressources et des compétences, après, ce que l'on va faire, c'est que quand même, on va confronter le projet à la réalité.
D'accord.
Parce que l'idée, c'est quand même que la personne, elle travaille sur un projet, voire deux. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce qu'elles aient un projet A et un projet B.
Plan A, plan B.
Plan A, plan B, exactement. et du coup, on va quand même confronter ça à la réalité du marché du travail. Alors, principalement localement, si la personne n'est pas mobile, donc on va vérifier qu'effectivement il y ait du potentiel, et puis aussi on va vérifier que le projet il est viable dans le futur. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai qu'avec la robotisation, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, c'est vrai que le monde bouge très très vite, et c'est vrai qu'il y a des métiers qui tendent à disparaître, donc ça va très très vite. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir à ça, de réfléchir si le projet qu'on est en train de construire, il a une espérance de vie quand même suffisante.
Donc, pas le monde des bisounours, c'était ce qu'on disait tout à l'heure,
ça,
mais surtout aussi vérifier si, quitte à travailler un projet, est-ce que sur le long terme, c'est quelque chose de possible ou pas? On n'envoie pas les gens dans une impasse.
Non, c'est ça, c'est pas le but, au contraire. Et ensuite, on finit tout simplement par le plan d'action aussi, hein, parce que l'idée, c'est pas que la personne, elle reparte avec ok, c'est super, j'ai un projet, il est épanouissant, il est réaliste, il est réalisable, mais par où je commence? Donc on accompagne la personne avec son plan d'action pour que ça puisse aller jusqu'au bout si elle le souhaite, en tous les cas, parce que là aussi il n'y a pas d'obligation, hein. Les personnes qui font un bilan de compétences et puis au final qui ne le mettent pas en œuvre non plus, hein, ou alors ça peut prendre du temps aussi,
oui,
hein,
c'est peut-être pas le bon moment, mais ça reste dans un coin pour le moment favorable. Tout le monde peut faire un bilan de compétences?
Tous les actifs peuvent faire un bilan de compétences, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est principalement des personnes en emploi. On a quelques personnes aussi en recherche d'emploi hein, qui mobilisent cette prestation. Et puis, je vous l'ai dit, quelques indépendants, sachant que c'est vrai que c'est une prestation qui est finançable à 100% par le CPF.
D'accord.
Donc aujourd'hui, même une personne à son compte a des droits au CPF. Donc potentiellement, elle peut mobiliser ce dispositif. Après, on a quelques prises en charge aussi par les employeurs hein, directement.
Oui.
Pour la fonction publique hospitalière, il y a aussi un dispositif particulier qui s'appelle l'ANFH. En principe, voilà. Et puis, il reste le financement personnel. Hein, en plusieurs fois, c'est aussi une des possibilités.
Donc, pour tous les actifs. Un petit mot sur le bilan d'orientation pour les jeunes quand même,
oui.
Pour nos auditeurs un peu plus jeunes qui se disent oui, mais alors moi les compétences pour l'instant j'y suis pas.
Ouais, alors là c'est vrai que ça s'adresse souvent aux parents. Je suis d'abord en principe sollicitée par les parents.
D'accord.
Donc mon point de vigilance c'est est-ce que votre enfant il est d'accord pour réaliser cette démarche, parce que la demande elle vient souvent des parents quand même.
Oui.
Et il faut que le jeune soit volontaire. Donc ça c'est une prestation qui s'adresse aux jeunes à partir de 14 ans. Parce que
d'accord,
c'est là où
très jeune, finalement.
Oui, très jeune. C'est là où on leur demande de faire leur premier choix. Est-ce qu'ils poursuivent dans le général ou pas ? Hein, c'est déjà un grand choix. Et puis c'est important parce que bah, aujourd'hui c'est un peu difficile de changer d'établissement en cours de cycle.
Oui.
Et parfois, le choix de l'option peut être un élément, enfin comme un frein.
Oui, une par fois qu'on a choisi une option, c'est pas facile de changer.
De changer d'établissement, donc c'est vrai que ça fait tôt, hein, la fin de collège, quatrième ou troisième. Mais néanmoins, quand la personne elle a vraiment un projet spécifique où il faut absolument telle ou telle option, c'est important qu'elle puisse l'avoir identifiée pour bien choisir son établissement pour le secondaire, en tous les cas.
Donc c'est une sécurisation de l'orientation, finalement.
C'est ça. C'est ça. Donc, on en fait principalement, voilà, quatrième ou troisième. Et puis après, beaucoup, un petit peu avant la fameuse étape Parcoursup. Avant de faire les choix, voilà. Les choix sur Parcoursup, donc voilà, plutôt en première ou terminale.
D'accord, ok. Vous êtes. Alors, on vous trouve où exactement ?
Nos locaux sont situés à la station ESS, donc au boulevard de la République à Nevers.
D'accord.
Donc, un espace social et solidaire hein, qui accueille plusieurs entreprises, mais aussi des organismes de formation. Enfin, voilà, on peut. Je ne suis pas là pour parler de la station ESS, mais on y trouve pas mal de choses. Donc, nos bureaux sont situés là-bas, donc un bureau que bien apprécié de nos clients. Qui respecte d'accord. la confidentialité, dans lequel souvent on se sent bien, avec un parking aussi, ça c'est un plus, on me le dit souvent, on peut se garer gratuitement et facilement juste devant. Et puis, prochainement, j'allais dire, parce que en exclusivité, Sylvie. Hein.
Merci. Merci pour nos auditeurs, l'exclusivité, c'est
voilà.
très bien.
On a une agence qui va ouvrir très très prochainement sur la Charité-sur-Loire.
D'accord, voilà. Donc pour tous ceux qui sont plutôt sur le nord du département.
C'est ça.
Et qui auront moins de déplacements à faire, finalement.
Exactement, voilà, c'est bien ça. Donc, tout le bassin de la Charité, mais aussi jusqu'à Cosne-sur-Loire, parce que c'est vrai que, on propose de la visio, hein. Donc c'est vrai qu'on n'a pas laissé sur le bas-côté les personnes de Cosne. Hein. On les a accompagnées, mais là, c'est leur offrir une solution quand même de proximité pour les personnes qui préfèrent se déplacer et être finalement en présence avec leurs consultants plutôt qu'en visio, parce que tout le monde n'est pas encore à l'aise avec ce mode de communication.
Entendu. Je vous propose qu'on marque une première pause musicale dans notre émission. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter ?
Qu'est-ce que j'aimerais écouter ou faire écouter aussi ?
On va partager tout ça.
Ouais. Résiste de France Gall, c'est une chanson
très
qui
bien.
Me parle beaucoup.
Et ben super. On se retrouve dans quelques instants.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant. Où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Pas pour ça.
Territoire. Mardi 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi 13h. La suite.
Après cette pause musicale, nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Notre invité du jour, donc Armel Nodin, pour la société Orientation My Potentiel. Armel, on va parler maintenant plutôt de l'actualité de votre secteur d'activité. Il me semble qu'il y a prochainement un événement sur l'orientation et la reconversion.
Oui, tout à fait. Le 21 novembre, c'est un mardi, donc le mardi 21 novembre, c'est la journée nationale de la reconversion professionnelle. Donc d'accord. C'est l'occasion, partout en France, de pouvoir venir s'informer sur les dispositifs liés à la reconversion professionnelle, qui d'accord. sont souvent méconnus, en fait. Hein.
Oui, c'est vrai que les personnes qui ont besoin de se reconvertir savent pas toujours par où commencer.
C'est ça.
Où est-ce que ça aura lieu pour notre territoire ?
Alors pour cette année, nous avons décidé de nous associer donc à une salle de sport.
D'accord.
Vous êtes surpris, Sylvie ?
Venant de vous, non. Rien ne me surprend.
Non, mais c'est vrai que l'idée, c'était, comme on prône beaucoup l'équilibre, l'épanouissement, oui. En fait, ça fait partie des piliers de vie, des piliers de l'équilibre. Et du coup, c'était comme une évidence que d'associer ça au bien-être. Parce qu'effectivement, être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête. Et du coup, nous, notre domaine, c'est de vous donner du bien-être pour être bien professionnellement. Donc, pour moi, ça prenait tout son sens. Donc, j'ai sollicité Charles de la société Woodfit.
D'accord.
Qui vient d'ouvrir une nouvelle salle. Et du coup, on va organiser l'événement dans son nouvel établissement.
Donc, l'idée.
Oui, pardon, situé à Nevers, anciennement le Courte Paille, donc à côté de chez Feuillette. Voilà, donc où on va proposer effectivement l'initiation sportive, mais aussi pour être en lien avec le bien-être, peut-être peut-être des petites démonstrations d'automassage, de respiration, peut-être des conseils sur l'alimentation, tout ce qui est lié finalement au bien-être de la personne, parce que si elle est bien dans son corps, encore une fois, elle pourra travailler. Et pourquoi pas, si elle le souhaite, son épanouissement personnel. Et donc, c'est là où on pourra assister à une conférence que je donnerai sur la reconversion, comme vous disiez, sur par où commencer, quels sont les dispositifs que l'on peut mobiliser. Parce que souvent, les personnes ne savent pas qu'en étant salariés, ils peuvent s'absenter de leur poste de travail, par exemple, pour se former à un autre métier, tout en maintenant, finalement, leur emploi, leur salaire, et avoir la prise en charge financière de du coût de la formation, pardon.
D'accord, oui, rémunération et coût de formation, finalement.
C'est ça, ouais. Donc on parlera de tous ces dispositifs qui s'offrent à nous pour éventuellement pour se reconvertir.
Très bien. Et au niveau de la reconversion professionnelle, on l'imagine souvent, en tout cas dans la pensée commune ou la plus répandue, on se reconvertit parce que ça va mal, parce qu'on veut changer.
Alors,
c'est une porte de sortie ou pas?
Ça peut, mais pas nécessairement. Hein, c'est vrai que ça n'a pas forcément toujours une bonne image auprès de l'employeur. D'ailleurs, la plupart des personnes que je reçois qui ont le statut de salarié me disent spontanément « Non, je ne vais pas demander un financement à mon employeur, je vais plutôt mobiliser mon CPF ».
D'accord.
Elle ne souhaite pas communiquer sur cette démarche auprès de leur entreprise. Ce que je trouve peut-être un peu regrettable, parce que parfois, au final, on assiste à des reconversions en interne, des évolutions qui peuvent être horizontales et pas forcément verticales. Donc, il y a certaines entreprises qui sont ouvertes effectivement à ces demandes de changement. Mais encore faut-il oser en parler à son employeur.
Très bien. Alors justement, ça m'amène une autre question. Si les gens n'osent pas en parler à leur employeur, qu'est-ce qui les motive parfois lorsque elles viennent vous voir pour un bilan de compétences? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les personnes ont envie de changer ou ne se retrouvent plus dans leur façon de travailler aujourd'hui?
Alors, j'apporterai deux réponses. La première, ça va être effectivement qu'elles ne se retrouvent plus, une perte de sens, une inadéquation avec leur système de valeurs. Alors ça touche principalement, ce qui peut être un peu effrayant d'ailleurs, le secteur de la santé.
D'accord.
Même médico-social. Hein. Donc c'est vrai que c'est des personnes, ce que je peux constater, qui ont vraiment choisi ces métiers par vocation. Qui sont souvent des personnes très investies, très consciencieuses dans leur métier, et finalement qui se retrouvent en décalage avec ce qu'on leur demande. C'est vrai qu'elles ont choisi ce métier pour la bienveillance, principalement. Ça fait partie d'une des valeurs fortes de ces personnes et commune à elles en tous les cas. Et pour autant, elles me décrivent un environnement où, on ne prône plus du tout la bienveillance et on n'est pas forcément même bienveillant avec eux.
Avec eux, et eux ont, parfois ils le disent, hein, le sentiment de ne plus être dans le soin, mais parfois même d'être maltraitant.
Oui, c'est vrai.
C'est ce qui les perturbe le plus, et on peut le comprendre.
Oui, et c'est pour ça qu'elles ne souhaitent d'ailleurs même pas, quand j'évoque des reconversions dans le secteur de la santé, parce que c'est vrai qu'elles pourraient évoluer sur d'autres métiers, parce que ça va aussi bien de l'aide-soignante en passant par l'infirmière, mais plus récemment une kinésithérapeute. Enfin, ça touche différents métiers, en tous les cas, de ce secteur, hein, qui expriment les mêmes choses. Et c'est vrai que... Non, c'est vraiment un rejet total sur le secteur d'activité qu'est la santé.
Alors, c'est important ce que vous nous dites là, parce que nous sommes, au niveau du secteur de la santé, nous sommes déjà sur un secteur qui est en forte tension.
Oui.
Et là, vous êtes en train de me dire que les personnes que vous côtoyez ne veulent même plus rester dans le secteur. Donc, on est vraiment sur des projets qui vont être complètement différents.
C'est ça.
Ça veut dire que ça pose quand même un vrai questionnement sur le devenir des métiers de la santé.
Oui, et puis ce qui est surtout, enfin en tous les cas, moi ce que je trouve alarmant, c'est qu'en plus, dans les projets de reconversion que je d'autres personnes donc, issues d'autres secteurs qui, elles, souhaitent changer aussi de secteur d'activité, je valide très peu de projets dans le secteur de la santé. Les personnes ne marquent pas d'intérêt pour aller vers ce secteur, en tous les cas.
Donc, double problématique.
Double problématique, effectivement,
s'il n'y a
pas de remplacement.
Ceux qui sont formés veulent partir, oui. Et les entrants ne se bousculent pas.
C'est ça.
Vous parliez justement de la problématique de donner du sens à son travail. Est-ce que là, on est sur une problématique de redonner du sens aux soins ?
Oui, alors c'est vrai qu'il faudrait pouvoir redonner du sens. On parle beaucoup d'un problème, c'est que les établissements sont dirigés par... on est plus sur une notion de rentabilité, hein, et c'est en ça où il y a cette perte de sens, finalement.
D'accord.
Plus que sur du soin, oui.
Oui, or on est sur de l'humain et sur du soin.
C'est
donc
ça.
Donc ça explique pour vous certainement ce décalage.
C'est ça.
Et plus globalement, en fait, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux chefs d'entreprise ? On voit bien que depuis... alors c'est exacerbé depuis la crise de la Covid. Parfois, les chefs d'entreprise sont confrontés à, justement, un rapport au travail des salariés qui s'est modifié avec l'envie de donner plus de part à l'équilibre personnel. Certaines entreprises ont des difficultés à recruter des salariés. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux chefs d'entreprise pour les aider à conserver leurs salariés, voire à en accueillir de nouveaux ?
Alors effectivement, c'était le deuxième point, il y a la perte de sens. Et le deuxième point, c'est ça, c'est effectivement, j'ai souvent un constat, pas un constat, mais je fais le constat suite aux remarques que j'ai assez régulièrement, c'est sur le manque de reconnaissance. Alors souvent, on parle de reconnaissance, on pense reconnaissance financière, mais là, on ne parle pas de cette reconnaissance-là, en fait. Donc si j'avais un message à faire passer, en tous les cas, aux employeurs ou aux managers, hein, pour qu'ils puissent garder leurs salariés, s'ils sont contents d'eux, c'est simplement leur dire, en fait. Ça tient à pas grand-chose, mais c'est vrai que les mots des gens, c'est ça, c'est simplement un merci, simplement génial, vous avez fait un bon travail, voilà. Ça, et puis peut-être un peu plus de responsabilisation, en fait, des gens, leur laisser un petit peu plus aussi peut-être d'autonomie dans leurs actes professionnels.
De nouveaux modes de management,
oui,
plus collaboratif.
Oui, plus collaboratif, où ils sont investis, mais à investir réellement, en fait. Hein, pas faire des propositions juste pour faire des propositions, qu'elles puissent...
réellement collaboratif.
C'est ça, réellement collaboratif. Mais voilà, mais simplement, leur faire des retours sur leur activité. Oui. Alors évidemment, il y a toujours des axes d'amélioration, mais souligner vraiment ce qui est positif dans leur travail. Je pense que ça permettrait vraiment de remotiver les personnes. Et je pense que ça tient à pas grand-chose quand même.
Ça tient à pas grand-chose et c'est pas forcément qu'une affaire d'argent.
Non, du tout.
Je vous propose qu'on marque une nouvelle pause musicale avant de commencer la troisième partie de notre émission. Qu'est-ce que l'on écoute sur cette pause, Armel ?
Eh ben, on peut écouter Happy.
Eh ben, allons-y. À tout de suite.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant.
happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire avec toujours Armel Nodin pour ce rendez-vous. Nous abordons la dernière partie de notre émission. Armel, qui est plus consacré à vous, pour permettre aux auditeurs de vous identifier, de savoir un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours. Comment en êtes-vous venu à créer votre société et spécialiser justement dans les bilans de compétences et pas que?
Alors, l'idée de cette société, finalement, c'est un peu le résultat du fil conducteur de ma carrière. Ça a toujours été, en fait, d'aider les personnes à se mettre en valeur. Voilà.
D'accord.
Donc, à révéler leur potentiel. Donc, ça a été de différentes façons, puisque j'ai commencé ma carrière dans le commerce. Mm-hmm. Donc, d'abord comme vendeuse, puis comme directrice d'une parfumerie. Donc, dans la vente, c'était dans l'habillement. Donc, c'était aider les personnes à se mettre en valeur, plutôt par l'extérieur. En parfumerie, c'était un peu la même chose aussi. Et puis après, j'ai fait moi-même une reconversion, qui est née d'ailleurs d'un bilan de compétences.
Comme
de
quoi,
hasard.
Comme quoi.
Voilà. Donc d'ailleurs, c'est un bilan de compétences qui était resté longtemps dans un tiroir. Donc ça, j'aime bien le raconter, parce que ça enlève aussi un peu une pression aux personnes qui pensent que parce qu'elles font un bilan de compétences, elles vont absolument devoir changer.
Demain. Voilà. Nouvel horizon,
c'est
nouveau
ça.
Job.
Tout changer, tout révolutionner, pas du tout. Au final, il n'y a pas tant de changements radicaux comme ça. Finalement, on se rend compte que non, ça se fait plutôt progressivement. Et pour ma part, donc, puisque c'était le sujet, eh bien, c'est un projet, un bilan qui est resté des années dans un tiroir, jusqu'à temps que je sois confrontée moi-même à la recherche d'emploi. Ne trouvant plus de poste de cadre dans mon domaine. Donc j'ai pris mon plan B. Et mon plan B, c'était le conseil en évolution professionnelle. Voilà, donc c'était il y a plus de 18 ans maintenant. Donc ça a été la deuxième partie de ma carrière. Et là, ça a été d'aider les personnes à reprendre confiance en elles, à prendre conscience de leur talent. Alors c'est vrai que talent, c'est toujours un mot qui fait peur, mais le principe du talent, c'est de faire des choses qui ne nécessitent pas d'effort, de les faire naturellement. Donc c'est pas forcément être virtuose ou je ne sais quoi, hein. C'est simplement avoir des facilités, des capacités pour certaines tâches. Donc voilà, c'est de les aider à identifier ces talents. Et puis derrière, les valoriser aussi, parce que c'est bien de savoir ce qu'on sait faire, mais il faut aussi être en capacité de le mettre en valeur, d'en parler et de communiquer sur ses atouts. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né My Potentiel. Après différentes activités professionnelles, une formation initiale qui n'avait pas forcément de lien au départ, puisque c'était dans la gestion d'entreprise, mais finalement qui me sert aujourd'hui, puisque j'ai fait le choix de me mettre à mon compte,
semble,
de quitter
quand
le salariat.
Ça a du lien quand même.
Voilà.
Et puis, vous vous adressez aussi, vous le faisiez tout à l'heure, aux managers, aux chefs d'entreprise. C'est important aussi de connaître l'autre côté pour bien identifier la façon d'accompagner les personnes qui vous sollicitent.
C'est ça, je pense que une force, c'est ça, c'est d'avoir moi-même fait plusieurs changements en fait dans ma carrière professionnelle. Et le changement, c'est pas facile, c'est une épreuve. Donc c'est d'être en capacité de comprendre la personne qui est en face de moi, qui a des doutes, qui a des peurs, et de l'aider en fait à enlever ses croyances limitantes, à dépasser ses peurs en lui proposant des solutions. Donc ça, c'est venu après dans un deuxième temps, de pouvoir se former aussi au coaching et puis aux méthodes d'orientation.
Oui.
Parce que c'est vrai que pour moi, la formation, il y a la formation initiale, mais aujourd'hui, il y a la formation tout au long de la vie. Oui. Et c'est vrai que j'aime beaucoup apprendre, je me forme en permanence. Et je pense que c'est vraiment important pour pouvoir accompagner au mieux les personnes.
Se remettre en question chaque fois aussi.
Oui, c'est ouais. Ça, avoir cette capacité de se remettre en question, d'être résilient. Donc voilà un petit peu mon parcours. Je parlais de formation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en début.
Oui, peut-être. Parce qu'il y a d'autres activités. On a parlé des activités principales que vous avez. Mais il y a d'autres activités qui nécessiteraient qu'on fasse d'autres émissions, qu'on n'a pas pu forcément détailler, mais on va pouvoir en parler justement. Vous êtes formatrice.
C'est ça, oui. Donc j'ai aussi cette casquette-là. Donc je suis formatrice sur le titre conseillère en insertion professionnelle, puisque c'est un emploi salarié que j'ai occupé pendant plus de 15 ans avant de me mettre à mon compte. Donc j'ai souhaité transmettre les connaissances acquises au cours de ces 15 dernières années. Je suis aussi jury pour ce titre-là. C'était boucler la boucle, je pense. Et puis, j'ai créé aussi ma propre formation, donc autour de l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est un concept japonais qui vise là aussi l'épanouissement, tant personnel que professionnel. Donc l'idée, c'est d'identifier et de repérer les choses que l'on aime, que l'on aime faire, les choses pour lesquelles on est doué, donc que l'on sait faire, les choses dont le monde a besoin actuellement, et puis les choses pour lesquelles on pourrait être payé. Et voilà, et en faisant des liens entre... C'est matérialisé par des cercles, en fait. Hein, et en faisant les liens entre ces quatre cercles, on est censé trouver notre mission de vie. Voilà, qu'est-ce qui pourrait nous donner du sens aujourd'hui? Donc, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, d'ailleurs, dans mes bilans de compétences.
D'accord.
Parallèle.
Vous parliez tout à l'heure justement de redonner du sens à son travail, à sa vie. Et donc, cette méthode de l'Ikigai vous permet aussi d'accompagner les personnes qui viennent vous voir en bilan ou en reconversion pour les aider à trouver ce pourquoi ils seraient faits, ce pourquoi ils pourraient être payés d'ailleurs.
C'est ça, oui.
Ouais, on parlait tout à l'heure de qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que si on a un projet mais qu'il n'est pas viable, c'est-à-dire que personne ne monnaie
nos
talents, en fait, ça doit rester du loisir, mais pas forcément une profession.
Oui, c'est
si
ça.
Je résume, c'est ça.
Oui, et puis on pourrait le développer, pourquoi pas, dans une activité bénévole, mais en tous les cas, ça ne rentrerait pas, effectivement. Si on ne remplit pas le cas de ce pourquoi je pourrais être payé, c'est qu'effectivement, ce n'est pas réaliste et réalisable si on veut, en tous les cas, que ce soit une activité professionnelle qui nous procure une rémunération. Mais on peut envisager de le développer sous d'autres formes, effectivement.
On entend bien au travers de ce que vous nous dites depuis le début de l'émission qu'il y a des mots qui reviennent, qui font partie de vos valeurs. Redonner du sens, parler beaucoup d'équilibre et d'épanouissement. Qu'est-ce qui est important pour vous d'un point de vue plus personnel en termes de, de vie, comment vous arrivez à gérer tout ça?
Alors moi, mes valeurs personnelles, donc la valeur numéro 1, c'est la santé.
Oui.
Donc pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre mes différents piliers de vie. Donc pour ça, j'attache beaucoup d'importance à la qualité de mon sommeil, à la gestion de mon stress, à la dépense physique, à l'alimentation, à la qualité de mes relations sociales et à mon épanouissement professionnel. Voilà. Donc pour moi, si tout ça, ça matche bien,
tout va bien
avec la famille, et voilà, y a pas de souci, effectivement, tout est au vert, et là, on est dans la performance, enfin, on est dans le meilleur que l'on puisse, pour moi, offrir.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes piliers, enfin, mon premier pilier, c'est la santé. Le deuxième, c'est la liberté. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'entreprendre et de quitter le salariat.
Oui.
Pour être libre de m'organiser, pour être libre de choisir les personnes que j'avais envie aussi d'accompagner. Donc des personnes qui soient volontaires, parce que j'ai fait pendant des années de tirer des gens
qui
n'avaient pas forcément envie, en fait, et pour qui on se bat plus, soit qu'eux-mêmes. Donc, ça, c'était important pour moi d'utiliser aussi des méthodes et des outils performants. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi Orientaction. Tout simplement de faire ce que j'aime, en fait. Donc je choisis de prôner le bilan de compétences et le bilan d'orientation parce que ça a du sens pour moi, parce que je crois beaucoup en ces prestations, parce que elles sont utiles. L'Ikigai, c'est tout simplement l'outil que moi-même j'ai utilisé pour créer My Potentiel, ne serait-ce que même pour trouver le nom, pour trouver ce fil rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça m'a pris énormément de temps, en fait, de savoir que depuis le début, j'apportais du conseil et que ce conseil, il était à chaque fois, dans un seul objectif, c'était de mettre en avant la personne, de l'aider à se mettre en valeur, à reprendre confiance en elle, en fait, que ce soit tant par le port d'un tailleur que par l'utilisation d'un fond de teint ou je ne sais quoi. Mais vraiment, ça a toujours été le fil rouge. Je suis passée aussi assez rapidement, mais j'ai aussi créé, il y a quelques années, une autre activité sur l'alimentation santé. Et là aussi, c'était aider la personne à se sentir bien dans son corps, en fait, pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même.
C'est ça. Être bien dans son corps, être en bonne santé, être épanoui pour pouvoir justement s'épanouir et être libre pour pouvoir s'épanouir au travail, donner le meilleur de soi dans tout ce qu'on fait, en fait.
C'est ça, la santé, la liberté, puis la stimulation, ce serait la troisième valeur que je pourrais communiquer. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets, d'être stimulé en fait en permanence. C'est pour ça que je me forme en continu, c'est pour ça que j'aime m'investir dans des nouveaux projets, que je suis curieuse, que j'aime la variété de la vie en général, que ce soit professionnellement tout comme personnellement. Et voilà, j'ai besoin effectivement de me lancer des défis
régulièrement.
Voilà, c'est ça.
Okay.
Et d'être stimulée.
Un rêve pour terminer.
Un rêve, oui, j'ai un rêve, ce serait de faire le tour du monde en famille.
Ah oui, c'est un peu différent encore.
C'est différent, mais c'est aussi très stimulant de pouvoir aller à la rencontre de personnes voilà, avec des cultures différentes, avec oui. des façons de vivre différentes, qui parlent différentes langues, des façons de travailler aussi différentes. Ce serait l'occasion de
oui, d'aller revenir voir, avec un regard neuf encore.
Ouais, c'est ça, et apporter encore des nouveaux outils, des nouvelles connaissances pour accompagner encore au mieux les personnes que je rencontre et qui en ont envie.
Donc après les méthodes japonaises de l'ikigai, on pourrait retrouver prochainement d'autres méthodes.
Peut-être, qui
Peut-être.
Sait.
Peut-être. Ouais, je vous le souhaite en tout cas.
Merci.
Merci d'avoir été notre invitée de ce rendez-vous de l'économie du territoire. À bientôt, Armelle. Et merci à nos auditeurs. Et je leur dis à bientôt également.
Merci, Sylvie.
Au revoir.
Au revoir.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire.